Les États-Unis et Israël ont fait passer des armes en Iran durant les émeutes, affirme le ministre iranien des Affaires étrangères. Le Hezbollah se dit prêt à apporter son aide au gouvernement et au peuple syrien, et Volodymyr Zelensky confirme qu'il n'appliquera pas les accords de Minsk. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici maintenant les détails. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que les États-Unis et le régime israélien avait fait entrer des armes à feu sur le territoire iranien via des pays frontaliers instables. Hossein Amir Abdullahian a fait ses remarques dans une interview à la National Public Radio, qui est un réseau d'environ 900 stations de radio publique aux États-Unis. L'interview a été réalisée au ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran par l'animatrice de la chaîne de radio Marie-Louise Kelly, mercredi. Les armements américains et israéliens sont entrés dans le pays via le territoire de certains de nos voisins les moins stables, a-t-il précisé. En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est un ravage au milieu de foules et de masses, et ils ont donc, dans les faits concrets, eu recours à des armes pour atteindre leurs objectifs, a noté le chef de la diplomatie iranienne. Amir Abdullahian a répondu au sujet du nombre de morts. Le nombre de morts lors des émeutes n'a pas été indiqué correctement, ajoutant, malgré une tension intense pendant les émeutes, la police iranienne n'était pas autorisée à porter des armes à feu. Par ailleurs, le chef de la diplomatie iranienne a abordé la question d'un récent décret du leader de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a permis la grâce d'un nombre considérable de ceux qui avaient été arrêtés pendant les émeutes. On vous lisait aussi en titre, le Hezbollah libanais a souligné dans un communiqué qu'il mettrait tous ses moyens et tous ses équipements à la disposition du gouvernement et du peuple syrien pour surpasser la crise due à un puissant séisme qui a touché le nord syrien. Vu cette grande tragédie, nous mettons toutes nos ressources au service du gouvernement et de la nation syrienne, car ils n'ont manqué un seul jour pour se tenir aux côtés du peuple libanais, indique le Hezbollah dans un communiqué. La résistance libanaise invite tout le monde à participer largement à cette campagne humanitaire et demande à tous ceux qui sont disposés à aider à se rendre dans les centres de protection civile affiliés à l'Organisation de la Santé dans chaque région. Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie a dépassé les 21 000 morts. Les secouristes restent engagés dans une course contre la montre pour sauver les survivants dans un froid mordant. Selon la FAD, l'organisme de secours turc, 17 406 corps ont été dégagés des décombres à ce stade et 3 377 ont été dénombrés en Syrie selon les décomptes officiels, portant jusqu'ici à plus de 21 000 le nombre total des décès. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis qu'il avait précédemment déclaré à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel et au président français Emmanuel Macron que les accords de Minsk étaient impossibles et qu'il n'envisageait pas de les mettre en œuvre. Je ne veux offenser personne, mais les accords de Minsk, vu comme un moyen d'apaiser la situation, étaient en fait une concession à la Russie, a dit Zelensky. Selon lui, il avait dit la même chose au président russe lors de la première et dernière rencontre avec Poutine au format Normandie en 2019. Je lui ai dit la même chose qu'aux deux autres. Ils ont été surpris et ont répondu. Si nous avions su à l'avance que vous alliez changer le sens de notre rencontre, alors il y aurait eu des problèmes avant même le sommet, a-t-il ajouté. Pour sa part, le président ukrainien a déclaré que Kiev n'utilisait l'accord que pour l'échange de prisonniers de guerre. Le président français a affirmé, quant à lui, que des avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent. Pour Emmanuel Macron, la livraison d'avions de chasse à l'Ukraine réclamée par Volodymyr Zelensky ne correspond pas aujourd'hui aux besoins de l'Ukraine. D'autant que ceux-ci ne pourraient en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent. Le président français a ainsi affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi, lors privilégier des armes plus utiles et plus rapides. Je n'exclus absolument rien, a-t-il toutefois assuré à Bruxelles devant la presse au sujet de livraisons d'avions de combat. Tout au long de la tournée européenne mercredi et jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays avait besoin d'avions de chasse. La Tunisie a déclaré avoir l'intention de reprendre ses relations diplomatiques avec la Syrie après une rupture longue de 10 années. Tunis, qui a rompu ses relations diplomatiques avec Damas après le début de la guerre nourrie depuis l'étranger en Syrie en 2011, a annoncé jeudi qu'elle souhaitait reprendre ses échanges diplomatiques avec Damas. Le président tunisien Kais Saied a déclaré que son pays avait décidé de renforcer ses relations diplomatiques avec la Syrie. Le conflit syrien est une affaire interne qui ne concerne que les Syriens, a déclaré Saied dans un communiqué après sa rencontre avec le ministre tunisien des Affaires étrangères. Tunis et Damas ont rompu leurs relations diplomatiques il y a près d'une décennie. La Tunisie a renvoyé une mission diplomatique limitée à Damas en 2017, cherchant à retrouver plus de 3 000 Tunisiens qui auraient combattu en Syrie. Depuis que Saïed a pris les rênes du pouvoir en 2021, il a envoyé des signaux suggérant un changement dans la politique diplomatique envers la Syrie. Au cours des derniers mois, plusieurs autres pays arabes, dont l'Égypte, la Jordanie, le Sultanat d'Oman et les Émirats arabes unis, ont également annoncé être prêts à reprendre les échanges au niveau des ambassadeurs avec le gouvernement syrien. Et pour fermer le journal, sachez que la Russie promet un soutien militaire supplémentaire aux pays africains qu'est le Mali pour accroître son efficacité au combat. En visite au Mali, le chef de la diplomatie russe a souligné que Moscou et Bamako avaient convenu que la sécurité est un défi majeur pour les Maliens. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a souligné quant à lui que tout pays cherchant à coopérer avec sa nation doit prendre en considération le principe de la souveraineté du Mali et respecter son droit de choisir un partenaire dont il a besoin. Rappelons que la coopération avec la France n'avait pas répondu aux aspirations du peuple malien. Le ministre Diop a fait savoir d'Ixit, le Mali a rejeté la poursuite de la coopération avec la France car les relations bilatérales ne répondaient plus à ses intérêts nationaux. Notre objectif est de favoriser la capacité autonome et indépendante de notre pays à défendre l'intégrité du Mali. Nous sommes tout à fait capables de le faire. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Émeutes en Iran, les tentatives de l'Occident sont vouées à l'échec. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les États-Unis et les 3 signataires européens de l'accord sur le nucléaire de 2015 avaient commis de graves erreurs de calcul en provoquant les récentes émeutes en Iran, soulignant que leurs tentatives en cours pour ternir l'image de la République islamique étaient toutes vouées à l'échec. Le président Raisi a fait ses remarques lors d'une réunion jeudi avec un groupe d'ambassadeurs étrangers en Iran à l'occasion du 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Il a affirmé que l'Iran, malgré le non-respect par les parties occidentales de leurs engagements dans le cadre du plan d'action global conjoint PGAC ou JCPOA selon le sigle anglais, s'est toujours déclaré prêt à finaliser les négociations de Vienne pour parvenir à un accord bon et équitable sur la relance de l'accord de 2015 et la levée des sanctions. Le président iranien a en outre affirmé, Dixit, au cours des derniers mois, nous avons assisté à une nouvelle vague de complots étrangers hybrides et d'ingérence de certains pays occidentaux en Iran. Via les sanctions et une campagne de désinformation, ces pays ont mené une guerre psychologique et hybride. Lors des récents troubles, a-t-il indiqué, certains ont tenté de ternir l'image de l'Iran par des informations complètement trompeuses. De telles tentatives sont toujours en cours, mais sont toutes vouées à une défaite ignominieuse. Les puissances arrogantes n'ont reculé devant aucun complot diabolique contre l'establishment islamique iranien depuis que la révolution islamique est sortie victorieuse en 1979. Elles ont soutenu le dictateur irakien déchu Saddam Hussein pendant la guerre de 1980 à 1988, imposé à l'Iran et nous ont imposé plusieurs séries de sanctions, a-t-il poursuivi. Il a noté une amélioration du statut des femmes iraniennes et de leur participation dans différents domaines, citant des statistiques qui montrent une avancée significative du rôle des femmes dans la société. Nous sommes prêts à avoir des discussions avec différents pays sur les droits de l'homme. Or, les soi-disant défenseurs des droits de l'homme en Occident doivent être tenus responsables de leur bilan catastrophique. Le double standard et les approches discriminatoires ne parviendront pas à améliorer le statut des droits de l'homme et constitueront, au contraire, de sérieuses menaces pour les principes humains. Fin de citation. Plus loin dans ses propos, le président iranien a rappelé que l'Iran a toujours soutenu la stabilité, la sécurité et le développement de la région et estime que la sécurité et les progrès régionaux sont étroitement liés à la stabilité de l'Iran. Le soutien de l'Iran à la nation palestinienne et à sa cause légitime sont indéfectibles. Le régime d'occupation de Tel Aviv est le principal responsable du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies dans la région de l'Asie occidentale, a affirmé Ebrahim Raisi.